L'onde du bois, une chronique de Lionel Ripaud.
Alors merci Lionel d'être avec nous pour une 9e chronique, et oui, ça passe vite.
Ouais, ça passe très vite, j'ai regardé ma montre, on était encore en chantier à 12h15 et là j'ai fait là vite,
oui,
je repars.
Oui, Lionel a débarqué au studio, sentant l'huile ouais. De chêne en authentique forestier.
C'est ça.
De quoi est-ce que tu es venu nous parler aujourd'hui?
Eh bien alors hier, ça commence par hier, je me suis octroyé un bon dimanche après-midi au calme à regarder le printemps s'installer dans mon jardin et du coup j'ai un peu traîné à écrire la chronique d'aujourd'hui. Du coup, je me suis dit que je partagerais avec vous quelques récits forestiers qui proviennent de ma lecture actuelle du manuel de l'arbre écrit par Émile Cardot, dont je vous avais déjà parlé, si vous vous rappelez bien, lors de la chronique 5 sur l'histoire du plateau de Mille Vaches. Donc ce manuel dédié à la jeunesse, dont le titre complet est « Manuel de l'arbre pour l'enseignement sylvopastoral dans les écoles », a été écrit par M. Cardot, conservateur des eaux et forêts, et président de la commission des pelouses et forêts du Touring Club de France. Donc ça fait beaucoup de titres tout ça. Sa première édition date de 1907 et a été couronnée par l'Académie des sciences morales et politiques, ainsi qu'adoptée par la commission de bibliothèque de l'enseignement primaire à qui il était destiné. En fait, l'objectif était clairement que les instituteurs des écoles normales et primaires soient mis à même, après entente avec les agents des eaux et forêts, de donner ces notions nouvelles d'économie forestière, d'usage des arbres et également d'économie pastorale aux jeunes élèves d'école primaire, en fait. Donc ce manuel, il va le faire, tout ça, avec beaucoup de sensibilité, avec un culte pour l'arbre et la forêt impressionnant. Puissent ceux et celles qui liront ce livre s'inspirer de son esprit et en réaliser la pensée, dit en préface M. Baliff. Alors je vous propose aujourd'hui deux récits qui ponctuent ce livre comme des leçons de choses. À l'époque, on avait beaucoup de leçons de choses, même affichées dans les salles de classe, et qui introduisent les chapitres et qui, après lecture, je trouve, sont toujours autant d'actualité. Alors le premier récit, eh bien, ça va être le défrichement. Un récit sur le défrichement pour un peu parler surtout de la protection de la forêt et du sol. Quel dommage, me disait un jour le vieux paysan François, que je ne puisse défricher un coin de cette grande forêt qui s'étend là-bas, aux confins de ma propriété. Voyez, ajoutait-il en enfonçant sans peine son bâton dans le sol jusqu'à une profondeur de plus de 60 cm, quelle bonne terre meuble et quelle belle récolte de blé elle pourrait donner. Et d'où provient cette terre, père François ? Dame, du feuillage qui tombe chaque automne et qui, par l'effet de la chaleur, de l'humidité, finit par pourrir et former du terreau. Par l'effet aussi des racines, des arbres qui peu à peu ont pénétré, labouré le sol. Et encore par l'action des vers de terre, des insectes, des champignons, d'une multitude d'animalcules ou de microbes qui vivent et se multiplient, meurent à leur tour sur ces débris et en achèvent la transformation en terre végétale. Il faut donc être reconnaissant à la forêt de ce lent et mystérieux travail par lequel elle prépare et renouvelle incessamment ses provisions d'humus, qui, en se mêlant, en se combinant avec la matière minérale du sol, finissent par composer la terre de nos cultures. Ce champ que vous voulez agrandir, ce champ avec ses belles gerbes ensoleillées dont vous êtes si fiers, était perdu autrefois sous la voûte obscure des arbres. Ce sont eux qui lui ont donné sa fertilité première. C'est à eux que vous devez cette longue suite de récoltes dont vos ancêtres et vous-même avez profité. La terre arable est fille de la forêt. Oui, sans doute, mais quand la terre est formée, il faut s'en servir, il faut la mettre en valeur, il faut défricher. Vous vous plaignez souvent, père François, que le blé ne se vend pas et paye à peine ses frais de culture. Ce serait bien pis s'il vous fallait payer les frais d'acquisition et de défrichement du terrain. Un de nos grands agronomes du temps présent, M. Grandot, vous a répété bien souvent qu'il y avait plus de profit à accroître par des engrais de rendement des récoltes qu'à étendre les cultures. C'est la vérité. Car si le blé se vend peu à notre époque, c'est qu'il y a assez de champs de blé et par le monde. Hélas, on défriche trop peut-être dans les régions lointaines où s'installent des civilisations nouvelles et où le sol ne coûte rien encore. Les forêts vierges d'Amérique disparaissent sur d'immenses espaces. Les arbres sont abattus, leurs débris sont consumés, les cendres épandues. Puis on sème, on récolte pendant une longue suite d'années sans apporter le moindre engrais. On gaspille peu à peu le trésor ramassé par des siècles de végétation forestière.
Eh bien oui, c'est encore d'actualité. Hein.
Eh bien oui, en fait, il y a encore de... on peut en parler même, une petite pensée en Guyane en ce moment où ils sont en train de raser une parcelle forestière pour mettre des panneaux photovoltaïques. Donc en fait, l'importance ici est de vraiment préserver le sol forestier. Et d'ailleurs, on va en parler hein, lors du deuxième récit. Juste dans ce manuel, dire qu'il y a de très belles photos également qui montrent des exemples d'erreurs à éviter, comme les coupes à blanc et toc sur pente. Et ça, on en parlait déjà en 1906. Rien de neuf sous le soleil de plus en plus chaud.
Oui, et on en parle encore aujourd'hui, en effet. Tu nous proposes un deuxième récit ?
Oui, je vais faire assez court. Celui-ci, hein, plus court, aborde la question de l'eau. Car avant même d'affirmer la forêt comme bien commun, ce qui est encore largement débattu aujourd'hui, eh bien là, par contre, personne ne peut nier que l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Hein, si on reprend l'article 1er de la loi 92.3 du 3 janvier 92, et que la forêt joue un rôle majeur dans sa filtration, sa conservation et sa bonne redistribution sur les territoires. Alors, avant 1964, réforme des eaux et forêts, l'eau était un enjeu pour le forestier tout aussi important que le bois. Voici le deuxième récit, édité dans le manuel de l'arbre d'Émile Cardot. Alors, plus court le récit. L'enfant et la source. Petite leçon symbolique. D'où viennent donc, disait Paul à son père, ces eaux fraîches et limpides qui en toute saison remplissent la source et s'épanchent dans le ruisseau ? Mon fils, interroge la source elle-même, et peut-être te révélera-t-elle son secret. Que vois-tu dans le calme miroir de ces eaux ? J'y vois sur ses bords la silhouette renversée des arbres qui semblent y baigner leur fraîche verdure. Au milieu, l'azur du ciel et de grands nuages blancs qui le traversent chassé par le vent. Et, çà et là, les reflets de soleil qui miroitent à sa surface. Eh bien, dit le père, tu vois là rassemblés comme en un tableau tous les éléments qui concourent à former la source. Le soleil qui aspire l'eau des continents et des mers, le nuage qui la transporte dans les hautes régions de l'atmosphère, enfin les bois et les gazons qui la reçoivent, la tamisent, la laisse écouler peu à peu jusqu'au conduit souterrain d'où tu la vois sortir en soulevant légèrement le sable qui tapisse le fond du bassin.
Oh, c'est joli. Donc c'est un récit chargé de sens. C'est vraiment intéressant de retrouver tout ce cycle de l'eau dans une résurgence d'eau. C'est vrai que c'est important hein, de retrouver ce genre de symbole aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Les symboles sont importants. Et sans faire de nostalgie, ces symboles permettaient facilement de faire comprendre aux enfants des enjeux majeurs de conservation, au moins de compréhension pour mieux utiliser les ressources.
Alors merci de nous avoir fait découvrir hein, ce petit manuel de l'arbre par Émile Cardot. Une petite conclusion ?
Oui, bah justement pour le découvrir encore mieux ce manuel, je vous conseille vivement sa lecture. Hein, et effectivement, la lecture de ce livre résonne encore bien de nos jours. Pour information, je vous reparlerai d'ailleurs d'Émile Cardot, car je travaille actuellement avec des étudiants de l'école forestière, ainsi que la mairie de Meymac, sur la rénovation d'un monument à l'effigie d'Émile Cardot, car Meymac a été pour lui son camp de base lors de ses études de faisabilité de l'installation de la forêt au début du XXe siècle. Ce monument est toujours visible au Jassonnais et marque l'entrée de l'une de ses anciennes pépinières forestières, où d'ailleurs les écoliers allaient apprendre à cultiver les arbres. Le projet d'initiation et de communication des étudiants, en fait, vise à lancer une souscription auprès des entreprises forestières de l'amont et de l'aval de la filière pour aider financièrement la rénovation du monument et participer à la commémoration du travail et de l'histoire de la forêt du plateau pour faire revenir ces valeurs forestières à nos jours.
Un super projet qui s'annonce alors, on espère en entendre davantage peut-être sur Radio Vassivière, qui sait ?
La suite, hein, je vous en parlerai, je vous tiendrai informé. Voilà.
On se dit au revoir Lionel, merci.
On se dit au revoir, et alors le petit morceau choisi justement, c'est le morceau c'est le groupe Belfour, groupe de rock qui est à Clermont-Ferrand.
Et les copains, les voisins.
Et il s'avère que justement la chanteuse, c'est l'arrière-petite-fille d'Émile Cardot.
Super, on écoute ça tout de suite. Merci Lionel. Ouais.
Je m'y suis accroché à ces grillages pires que l'atoll. Pour tenter d'y échapper, fallait bien que je la console. À la première mêlée, t'es arrivé à mes yeux. À nous deux, on transportait sous le désespoir de nos vieux. Les mots coincés dans la gorge, tu me les as tirés un à un. Paraît-il qu'on se forge entre ces murs des 8h20. Puis les rires sont venus entre les disques qui se rayent et ces fameuses disputes, ça fumait dans l'appareil. Si la rivière coule ici, que la rivière coule ici. On n'a pas prévu de Berlin, même pas besoin de tout ça. S'émerveiller comme gamine, on se la racontait pas. On rêvait les belles histoires qui font mouiller les mouchoirs. Un road trip à la Delma, Héloïse sera toi, elles seront toujours plus belles. Si on se les raconte en vrai, ce sera nous les deux rebelles. Et y aura pas de grands regrets, sortir de cette foutue cuvette qui te donne tant de soucis. On se criera qu'on est bête de s'être dit que c'était fini. Si la rivière coule,